type de données dynamiques. Et ce qu'on va voir, c'est qu'essentiellement, on va combiner deux idées qu'on a déjà vues, c'est pour ça que ce n'est pas difficile. L'idée d'enregistrement qu'on a vue vendredi dernier et l'idée de récursivité qu'on avait vue dans le cadre des fonctions. Mais quand on avait parlé de fonctions récursives, je vous avais déjà dit que la notion de récursivité était une notion beaucoup plus générale que la définition de fonction. Avant de commencer, parce que sinon je vais oublier ensuite, les délégués de cours et les délégués de TD, je vous propose que nous déjeunions tous ensemble avec les enseignants, non pas demain, mais mercredi, entre le TD du matin et le TD de l'après-midi. Et donc ça veut dire qu'on va se retrouver dans un morceau du restaurant qui s'appelle l'Aquarium. Donc il vous reste 48 heures pour trouver où se trouve cet endroit. Alors, je vous rappelle un petit peu l'endroit où nous sommes. Dans les trois premiers amphis, nous nous étions concentrés sur la notion de structure de contrôle. Et puis, vendredi dernier, nous avions commencé à parler de structure de données avec la notion d'enregistrement. Et nous avions vu que la notion d'enregistrement regroupait quatre fonctionnalités qui sont définir un type enregistrement. En Java, ça se fait avec le mot-clé classe. On avait vu qu'en CAML, ça se faisait avec le mot-clé type et en C, ça se faisait avec le mot-clé struct. Il y a allouer un enregistrement. Donc en Java, c'est new. En CAML, on avait vu que c'était juste une paire d'accolades. Et en C, il n'y a pas d'allocation d'enregistrement. L'accès à un champ, qui était le point, et la modification d'un champ, qui était la combinaison du même point et du symbole égal. Alors, à quoi ça sert les enregistrements? Eh bien, on avait vu que ça permettait définir un type comme le type des points, et dont une valeur de type point n'est pas juste un nombre, comme c'était le cas avec les types primitifs. Une boîte pouvait contenir un seul nombre, mais ici, un objet de type point peut contenir trois nombres. Par exemple, on peut représenter des polynômes du second degré AX2 plus BX plus C comme le triplet ABC. Alors, néanmoins, vous voyez qu'on peut vouloir un type pour les polynômes du second degré, on peut vouloir un type pour les polynômes du troisième degré, du quatrième degré, mais ce qu'on cherche réellement, c'est un type qui nous permet de représenter tous les polynômes, quel que soit leur degré. De la même manière, si on veut définir un type pour des dictionnaires ou pour des annuaires, eh bien, on ne veut pas définir a priori le nombre de mots qu'il peut y avoir dans le dictionnaire ou le nombre de noms qu'il peut y avoir dans l'annuaire, mais on veut être capable de définir un type dans lequel on peut stocker un nombre quelconque de mots ou un nombre quelconque de noms. C'est ça qu'on appelle un type dynamique, c'est un type dont les éléments ont une taille variable. Et variable signifie deux choses. Ça signifie d'abord d'un objet à l'autre, d'un dictionnaire à l'autre, il n'y a pas le même nombre de mots. Et puis, au cours du temps, quand l'objet est mutable, on veut être capable de rajouter ou de supprimer des mots ou des noms, et donc l'objet va avoir une taille qui évolue dans le temps. Et alors, comme je vous le disais tout à l'heure, cette possibilité de définir des types dont les objets ont une taille variable, d'un objet à l'autre et au cours du temps, elle est obtenue en combinant la notion d'enregistrement et la notion de récursivité. Donc, commençons par les listes. Vous vous souvenez qu'on avait dit la semaine dernière, vendredi, qu'un triplet, ça pouvait se définir comme une fonction dont le domaine, c'était 0, 1, 2. L'image de 0, c'est le premier élément du triplet. L'image de 1, c'est le deuxième élément du triplet. Et l'image de 2, c'est le troisième. Et ça, c'est une manière de définir un triplet. Une autre manière de définir un triplet, c'est-à-dire qu'un triplet, c'est un couple dont le second élément est lui-même un couple. Et donc le triplet 48, 715, 2,208 et 156, eh bien, il peut se définir comme ça, comme le couple dont la première composante est 48,715 et la seconde composante est un couple dont la première composante est 2,208 et 156. Et de manière générale, quand vous avez une liste, c'est-à-dire un énuplet dont vous ne connaissez pas le n, une liste finie, eh bien, vous pouvez toujours la décomposer en un premier élément, qui ici est 48,715, et le reste de la liste. Et ça marche quelle que soit sa longueur. Exemple, si vous avez une liste de longueur 4, 1, 2, 3, 4, eh bien, la tête de la liste, c'est le nombre 1. Et attention, la queue de la liste, ce n'est pas le nombre 4, c'est la liste 2, 3, 4 qui est obtenue en supprimant la tête. Donc, on peut définir un type des listes. Et comme on a vu que une liste d'entiers est formée d'un entier, la tête de la liste, et d'une autre liste, qui est la queue de la liste qu'on est en train de définir, eh bien on s'aperçoit que ça nous amène à définir un type enregistrement qui s'appelle liste, qui a deux champs, un champ head et un champ tail, et le champ head est juste un champ de type entier, là il n'y a rien de nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est que le champ tail est lui-même un champ de type liste, c'est-à-dire que la définition du type liste est une définition récursive. Un petit peu de vocabulaire, quand on a un type enregistrement qui n'est pas récursif, il n'est pas récursif, et quand il est récursif, il y a deux possibilités, ou bien il y a un seul champ qui utilise le type lui-même, auquel cas on appelle ça un type de liste, ou bien il y en a plusieurs, et dans ce cas-là, ça s'appelle un type d'arbre. Et ça s'appelle un type d'arbre, qui en est deux, qui en est trois, qui en est quatre. Ici, on sait juste compter 0, 1 et beaucoup. Bien, est-ce qu'il est vrai qu'une liste est toujours constituée d'un premier élément et d'une autre liste? Donc il y a une exception, c'est la liste vide. Donc ici, ce qui est plus exact, c'est de dire qu'une liste non vide est constituée d'un premier élément et d'une liste. Et donc, ce qu'on voudrait faire, ce n'est pas définir liste comme étant égal au produit cartésien des entiers et des listes, puisque ça, à gauche, on a toutes les listes, y compris la liste vide, et à droite, on a les listes non vides. Donc cette égalité est fausse. Mais ce qu'on veut faire, c'est définir les listes comme étant l'union disjointe de deux ensembles, le produit cartésien des entiers et des listes, et le singleton qui ne contient que la liste vide. Or, il s'avère que quand on définit un type comme celui-ci, avec le mot-clé classe, le type des listes en indiquant qu'il a deux champs qui s'appellent head et tail, et dont le premier est un entier et le deuxième est une valeur de type liste, eh bien il y a deux possibilités, puisqu'on a vu la semaine dernière qu'une valeur d'un type enregistrement pouvait ou bien être la valeur nulle, ou bien une cellule qui contient un entier et une valeur de type liste. Ce qui fait que cette définition, du point de vue mathématique, elle se traduit comme cela, le fait que les listes, un objet de type liste, c'est ou bien la valeur nulle, ou bien un couple formé d'un entier et d'une liste, et vous voyez que finalement, ces deux définitions sont identiques, à condition qu'on identifie la valeur nulle à la liste vide. Et donc vous voyez que la valeur nulle, la semaine dernière, on avait juste dit, quand on met une boîte sur la table, il faut lui mettre une valeur par défaut, et donc on va inventer une valeur qui s'appelle nulle. Et alors j'ai un peu changé la représentation des nuls, maintenant c'est juste un petit bâton comme ça. En fait j'ai rien changé du tout, mais je l'avais oublié la semaine dernière, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Donc voici, on avait dit, quand on a une variable, par exemple L, avant qu'on mette une boîte rouge sur la table et un pointeur, etc., il faut bien qu'elle ait une valeur. Et donc, on avait inventé la valeur nulle pour ça. Et vous voyez que la valeur nulle, qui était quelque chose de peu d'importance la semaine dernière, tout d'un coup ici, prend une grande importance, puisqu'on s'aperçoit que c'est grâce à elle qu'on peut représenter la liste vide. Sinon, il aurait fallu faire autre chose. On va voir qu'il y a des langages où il n'y a pas nulle, et dans ce cas-là, il faut faire autre chose. Bien, alors, un exemple. Voici un programme qui fait 6 lignes. Première ligne, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai une. Affectation, book, séquence, déclaration. Merci. Donc, le résultat de cette opération, ça consiste à mettre sur la table une boîte bleue, la lier avec un nom L, et puis, comme contenu, je mets une valeur par défaut qui est nulle. Deuxième ligne, je fais L égale new list, de parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Donc ça, c'est une quoi? Vous avez dit allocation ou affectation? Allocation. Donc qu'est-ce qui est une allocation? New list. Mais l'instruction elle-même, c'est une affectation. Donc j'ai une affectation, je vais mettre une valeur dans la boîte L, et effectivement, la valeur que je vais mettre, c'est le produit d'une allocation, et donc je vais mettre sur la table, ou plus généralement dans la mémoire, une boîte qui est de type liste, donc c'est une boîte double, et rouge, et je vais ensuite faire l'affectation qui consiste à mettre dans L un pointeur vers cette boîte. Troisième étape, ça c'est facile, j'affecte le champ head de... donc là, il y a 0, 0, bien sûr, il y a des valeurs par défaut. Non, il y a 0 et nul. Et donc, j'affecte le premier champ en mettant 4. Quatrième liste, quatrième ligne, qu'est-ce que je fais? Une autre allocation et une autre affectation. Et donc, je mets dans le champ tail de L un pointeur vers cette nouvelle boîte. L.tail.head égale 5. C'est où head.tail.head? Alors, c'est quoi la valeur de L? C'est la première boîte rouge. D'accord? Donc, voilà la valeur de head. C'est quoi la valeur de L.tail? C'est la deuxième boîte rouge. Et donc, ici, j'ai L.tail qui est une expression qui désigne la deuxième boîte rouge. Et j'ai une affectation du champ head de cette boîte. Donc attention, ici, ce point, il fait partie de cette valeur L.tail, et ce point, il fait partie de l'instruction d'affectation d'un champ qui est point égal. Et donc là, il faut que je mette un 5 donc, dans cette boîte, et ensuite, il faut que je mette la valeur nulle dans le champ tail de la boîte L.tail, et donc voilà le résultat. Qu'est-ce qui se passe si je supprime la ligne 4? Bon, on va recommencer. Donc, première ligne, c'est la déclaration de la variable L. Donc, j'arrive ici avec un nul comme valeur. Deuxième ligne, j'alloue une boîte et je mets un pointeur vers cette boîte dans L. Jusqu'ici, rien n'a changé par rapport au cas précédent. Troisième ligne, je fais exactement la même chose. Je mets le 4 ici. Et maintenant, j'exécute cette instruction. L.tail.head est égal à 5. C'est quoi la valeur de l'expression L.tail? Eh bien, c'est nul. Et donc là, je suis dans la situation où j'ai une valeur qui est nulle, donc qui est une valeur de type list, mais qui n'est pas une référence d'une boîte rouge. C'est l'unique exception. Une valeur de type list, c'est ou bien nulle ou bien une référence vers une boîte rouge. Et ici, ce n'est pas une référence vers une boîte rouge. Et je suis en train d'essayer de faire une affectation d'un champ d'une boîte qui n'existe pas. Et donc là, dans ce programme déclenche une erreur. Et c'est une erreur qui est extrêmement difficile à deviner au moment où on regarde le programme. C'est vraiment typiquement le type d'erreur qui se produit une fois que le programme est chez le client, que le client l'a mis dans une navette spatiale, que la navette spatiale est arrivée sur Mars. Et à ce moment-là, on exécute le programme et on s'aperçoit qu'on avait oublié d'affecter, d'allouer une cellule et qu'il faut revenir à la navette spatiale, corriger le code et renvoyer la navette spatiale sur Mars. Bien sûr qu'il y aura des navettes spatiales qui vont sur Mars. Bien, une manière d'éviter ce genre de situation, c'est d'utiliser un constructeur binaire pour fabriquer les listes. Ici, vous voyez que j'ai créer un constructeur binaire qui s'appelle list, qui me permet de faire non pas new list, de parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, ce qui consiste à mettre sur la table une boîte qui contient des valeurs par défaut, et puis dans un second temps à allouer les champs de cette boîte. Ici, vous voyez, j'avais fait ça en deux temps. D'abord, je crée, ensuite, j'alloue, d'abord j'alloue, ensuite j'affecte. Ici, je fais tout d'un coup, avec le constructeur list qui à la fois alloue et affecte les champs, ici, avec 5 et nul. Et vous voyez que ici, je perds la possibilité d'affecter sans allouer, puisque c'est la même instruction, la même construction qui alloue et qui affecte en même temps. Et donc, vous êtes sûr que vous n'affectez que des champs d'objets alloués. Donc, c'est une bonne idée d'utiliser toujours le constructeur binaire des listes et jamais le constructeur par défaut pour ensuite allouer les champs. Ça, ça vous évite d'allouer les champs. Et moins vous allouez les champs à la main, moins vous risquez de faire d'erreur d'allouer des champs nuls. Bien. Un petit peu de théorie. Alors, vous vous souvenez qu'on avait parlé, qu'on avait vu les fonctions récursives. On avait mis en lien la récursivité avec deux notions que vous connaissez, qui sont la notion de limite d'une suite d'approximation et la notion de point fixe. Et je vous avais dit qu'on avait le choix toujours de définir la fonction sigma pour une fonction récursive ou bien comme une limite d'approximation finie du programme infini qu'on obtient en déroulant la récursivité, ou bien comme un point fixe, et qu'en gros, ça revenait au même. Et on va voir que c'est aussi le cas pour les types de données récursifs, mais avec une différence. C'est que autant sur les fonctions récursives, on peut considérer que ce problème de définition de la fonction sigma est un peu un problème académique. Bon, c'est intéressant de faire de la théorie pour le plaisir de faire de la théorie. Autant ici, on va voir que dans le cas de la définition des types récursifs, il y a une surprise qui va se présenter et on va voir cette surprise en essayant de clarifier l'acidification d'une définition récursive comme la définition du type des listes. Alors, commençons par le même type de questionnement qu'on avait sur les fonctions. Quand j'ai une définition comme celle-ci, la liste, c'est l'union disjointe du singleton qui contient nul, c'est-à-dire la liste vide, puisqu'on a décidé d'identifier nul et la liste vide, et le produit cartésien entre les entiers et les listes. On ne peut pas voir ça comme une définition. Si c'était une définition, ce serait une définition circulaire, puisqu'on n'a jamais le droit dans une définition d'utiliser l'objet défini à droite. Mais on peut voir ça comme une équation. On peut se dire, est-ce qu'il existe un ensemble qui vérifie cette propriété, que si je fais son produit cartésien par les entiers, et puis je rajoute un objet qui n'est pas dedans, je retombe sur le même ensemble. Et donc, voilà une équation, et on peut chercher les solutions de cette équation. Et exactement comme on avait fait pour le cas des fonctions récursives, on va construire une solution de cette équation en faisant des approximations successives. Et puis en prenant la limite de cette suite d'approximations. Donc c'est quoi une bonne approximation du type des listes? C'est les listes qu'on peut construire en moins de 1000 opérations. Donc ça ne contient pas toutes les listes. Par exemple, si vous prenez la liste 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 999, 1000, 1001, ben vous ne pouvez pas la construire en 1000 opérations. À vrai dire, déjà, à 1000, vous ne pouvez pas. Mais c'est une bonne approximation qui contient déjà la liste 1, 2, 3, 4, qui contient déjà la liste 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et puis, si on veut de meilleures approximations, on peut en faire. Donc, on va appeler LN les valeurs de type liste qu'on peut construire en moins de N étapes, c'est-à-dire les listes qui ont une longueur inférieure à n-1. Donc en zéro étape, on peut rien faire, et donc la valeur de L0, c'est juste l'ensemble vide. En une étape, quelle est la seule liste qu'on peut construire? C'est la liste vide. Et cet ensemble qui ne contient que la liste vide, je l'ai obtenu, comment? Bien en faisant l'union disjointe de l'ensemble qui ne contient que la liste vide, avec le produit cartésien de l'ensemble vide et des entiers. Alors, plus intéressant, L2, c'est l'ensemble des listes de longueur O plus 1. Donc, il y a les listes de longueur 0 et les listes de longueur 1. Et donc, comment est-ce que je l'ai obtenu? Je l'ai obtenu en faisant l'union disjointe des listes de longueur 0, c'est-à-dire la liste vide, et des listes de longueur 1 que j'obtiens en faisant le produit cartésien des entiers et des listes de longueur 0. De la même manière, les listes de longueur 0, 1 ou 2, l'ensemble L3, eh bien, je l'obtiens en faisant l'union disjointe de l'ensemble des listes, du singleton qui contient la liste vide, et des listes qui contiennent un ou deux éléments que j'ai obtenus en faisant le produit cartésien des entiers et de l'ensemble des listes qui contiennent 0 ou 1 élément, qui est l'élément précédent. Et donc, vous voyez que j'ai une manière ici de définir Ln à partir de Ln plus 1 à partir de Ln. Ln plus 1, c'est juste la réunion de nuls avec le produit cartésien des entiers et de Ln. Ces ensembles, ils sont inclus les uns dans les autres. J'ai d'abord l'ensemble vide, puis l'ensemble qui ne contient que la liste vide, puis la liste de longueur au plus 1, puis la liste de longueur au plus 2, puis la liste de longueur au plus 3, puis la liste de longueur au plus 4. Et donc, quand j'ai comme ça une suite d'ensembles inclus les uns dans les autres, eh bien, elle a toujours une limite, et sa limite, c'est la réunion de tous les éléments. Et donc, je vais définir le type des listes comme étant la réunion de tous les li, où i varie entre 0 et l'infini, i étant un entier. Et donc, vous voyez que n'importe quelle liste finie a une longueur, donc n'importe quelle liste finie va arriver dans l'un des li à partir d'un certain moment, peut-être L4, peut-être L12, peut-être L100, peu importe, à un moment, elle va arriver, et donc, elle va se retrouver dans l'ensemble des listes. Donc, l'ensemble qu'on construit ici, comme la limite de cette suite d'approximation, c'est une solution de cette équation, mais ce n'est pas la seule solution de cette équation. Donc, donnez-moi un autre exemple de solution. Eh bien, si vous prenez l'ensemble de toutes les suites fini ou infini. Donc prenez la suite des décimales de pi, prenez la suite des décimales de e, tout ça c'est des listes d'entiers infinis. Eh bien vous voyez que cet ensemble est aussi une solution de cette équation. Quand vous prenez l'ensemble de toutes les listes finies ou infinies et vous faites le produit cartésien avec les entiers, vous obtenez quoi? L'ensemble des suites finies ou infinies mais qui ont au moins un élément qui est là, c'est-à-dire les suites non vides, et quand vous rajoutez la liste vide, la suite vide, eh bien vous retombez exactement sur le même ensemble. Donc on a une solution qu'on a construite, mais c'est pas la seule solution, et c'est la plus petite des solutions. Donc n'importe quel ensemble qui est une solution de cette équation contient forcément cette plus petite solution qu'on a construite au transparent précédent, ici, l'union des LI. Alors, un point sur lequel il faut insister, parce qu'on en rediscutera quand on parlera de Camel, c'est le rôle de la valeur nulle. Si on avait fait la même construction avec l'équation list égale int croix list, qu'est-ce qu'on aurait obtenu? Eh bien, l'ensemble vide. Pourquoi? Reprenez cette construction et oubliez ici qu'on fait l'union disjointe avec nul. L1 va être simplement le produit cartésien de int avec L0. Et ça, c'est quoi? Le produit cartésien des entiers avec l'ensemble vide. C'est l'ensemble vide. Et L2, ça va être le produit cartésien des entiers avec l'ensemble vide. Et donc, ça fait à nouveau l'ensemble vide. Donc, vous avez ici une suite d'approximations dont chaque élément est vide, donc c'est bien une suite d'ensembles dont chaque élément est inclus dans l'élément suivant, et vous pouvez prendre la réunion qui est une limite, mais cette réunion elle-même est vide. Et donc finalement, ce qui fait marcher toute cette construction, c'est ici le fait qu'on a cette unique valeur nulle, qui du coup joue un rôle encore plus important que ce qu'on avait vu tout à l'heure. D'accord? Donc au fur et à mesure du développement, la valeur nulle, qui était au départ juste une valeur par défaut dont on avait bien besoin, parce que quand on faisait une déclaration sans allocation, il fallait une valeur par défaut, eh bien finalement, on s'aperçoit que c'est elle, ici, qui est l'âme de toute cette construction. Sans nulle, on obtient l'ensemble vide. Et donc, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on connaît comme langage qui n'a pas de valeur nulle? On en connaît deux. Camel et C. Donc, quand on parlera de Camel et C, l'essentiel de notre discussion sera autour de l'absence de cette valeur nulle. Bien, alors je vous avais dit qu'on aurait une surprise, et voici la surprise. On va exécuter ce programme, qui est à peu près le même programme que tout à l'heure, avec une toute petite différence. Et donc on va refaire ce qu'on avait fait tout à l'heure. On a une boîte L que voici. Deuxième ligne, on alloue une boîte rouge, et on met un pointeur dans L vers cette boîte rouge. Troisième ligne, on met 4 dans le premier champ de cette boîte. Quatrième ligne, on alloue une autre boîte et on met un pointeur dans le champ tail de cette boîte vers celle-ci. Cinquième ligne, on met la valeur 5 ici. Et sixième ligne, attention, c'est là que c'est différent. Dans l'exemple précédent, on mettait nul ici. Et maintenant, on met autre chose, on met la valeur L. Alors, c'est quoi L? C'est la première des boîtes rouges. Et donc, ici, je mets un pointeur vers cette boîte rouge. Donc, quelle est la surprise? C'est que quel est le premier élément de cette liste? 4. Quel est le deuxième? Quel est le troisième? Et le quatrième? Et le cinquième? Voilà. Donc, c'est une liste qui est infinie. Donc, on croyait qu'on avait défini avec le type liste un type des listes finies. C'était en tout cas l'objectif qu'on avait au début. Rappelez-vous tout ce qu'on avait raconté ici. On disait une liste, c'est-à-dire une liste finie qui est non vide, blablabla. Et on s'aperçoit qu'on n'a pas construit le type que l'on croyait, mais on a construit un autre type qui contient des listes infinies. Et pourtant, il n'y a qu'un nombre fini de boîtes sur la table. D'accord? Donc c'est le paradoxe de cette construction. On aurait pu construire une liste infinie, peut-être, je sais pas très bien comment faire, mais en amenant un nombre infini de boîtes, mais c'est pas du tout le cas. Ici, on a juste mis un pointeur vers une boîte antérieure et on a créé une liste infinie. Donc, une application de ça à la construction de scénarios de films. Donc, c'est ma version de la longue saga de La Guerre des Étoiles. Donc, dans l'épisode 1, Luke Skywalker et Dark Vador sont sur la planète, sur l'étoile, pardon, qui se trouve ici, qui s'appelle Al-Qaïd. J'y peux rien, elle s'appelle comme ça depuis de nombreuses années. Et, bien sûr, ils vont se battre avec des sabres laser des années 70. Et, à la fin du film, Luke Skywalker s'échappe vers Mizar. Et puis, du coup, il y a un deuxième film où Dark Vador le rejoint sur Mizar et ils peuvent continuer à se battre avec des sabres laser. À la fin du deuxième épisode, il s'échappe vers Aliot. Et au début du troisième, Dark Vador le rejoint, ce qui leur permet de mener une nouvelle bataille sur Aliot. Quatrième épisode, il se passe à peu près la même chose sur Maigrez. Puis ils vont sur cette étoile, sur celle-là et sur celle-là. Mais là, j'ai déjà tourné sept épisodes de ma saga. Et même George Lucas a expliqué qu'il était fatigué de La Guerre des Étoiles après le sixième épisode. Mais ce qu'il n'a pas pensé à faire, c'est que quand ils sont sur Fetka ici, il suffit qu'ils s'échappent vers Maigrez, et il peut nous refourguer le quatrième épisode comme étant le huitième. Donc, vous avez ensuite la possibilité, après le quatrième, de redonner le cinquième, puis le sixième, puis le septième, puis le quatrième, etc. Bon, il faut faire attention à une chose ici, qui est un peu contre-intuitive. C'est que ces trois épisodes, vous ne les verrez qu'une fois. Après les avoir vus, bah vous ne les reverrez pas. Alors ça, c'est un phénomène plus général. Quand vous avez un ensemble fini, comme ici cet ensemble de sept points, et une fonction de cet ensemble fini vers lui-même, et que vous partez d'un point quelconque, vous pouvez itérer cette fonction. Et au bout d'un temps, vous allez forcément tomber sur un élément que vous avez déjà vu, puisque l'ensemble est fini. À partir du moment où vous retombez sur un ensemble que vous avez déjà vu, sur un objet que vous avez déjà vu, eh bien, vous allez avoir une suite périodique qui va se répéter à l'infini. Alors, pourquoi c'est contre-intuitif? C'est parce qu'en général, vous oubliez cette partie. Et cette partie, elle vient de quoi? Elle vient du fait que la fonction qui se trouve ici, ce n'est pas une bijection. Alors, pourquoi c'est pas une bijection? D'abord parce qu'elle n'est pas injective. Vous voyez que ce point et ce point ont la même image. Et d'autre part, elle n'est pas surjective, ce point est l'image de personne. Or, si vous faites la même construction avec une bijection, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le seul moyen que vous avez de retrouver un élément que vous avez déjà vu, c'est de retomber, où ça? Sur le premier. D'accord? Et ça, c'est le fait d'itérer une opération bijective est quelque chose que vous connaissez beaucoup mieux que itérer une fonction qui n'est pas bijective. D'accord? Par exemple, si vous avez fait la théorie des groupes, la fonction qui consiste à ajouter un objet à un élément d'un groupe, elle est bijective, puisque c'est un groupe, l'élément est inversible, vous pouvez toujours ajouter son opposé et revenir au point où vous étiez. Et donc, quand vous itérez une fonction dans un groupe, vous retombez toujours sur le premier. Exemple, si vous êtes musicien et que vous partez du Fa et que vous montez en quinte, vous faites Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, après Fa dièse, Do dièse, Ré dièse, La dièse, Mi dièse, et vous retombez sur Do. Parce que monter d'une quinte, vous pouvez descendre d'une quinte, c'est une opération bijective. Donc vous retombez sur le premier élément. Mais ici, vous avez une opération qui n'est pas bijective, et donc vous pouvez retomber sur le quatrième. C'est pour ça que vous avez ici un petit motif, 1, 2, 3, que vous ne reverrez qu'une fois, qui ne fait pas partie de la période. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle ça porte tout un tas de noms, moi j'appelle ça une grande ours, vous avez compris pourquoi. Et d'autres livres appellent ça un lasso, parce qu'un lasso, effectivement, vous avez une boucle et aussi un petit morceau de corde qui permet de lancer le lasso. Donc les listes qu'on a construites, le type des listes qu'on a construites, c'est pas l'ensemble des listes finies, c'est l'ensemble qui contient les listes finies et les grandes ours, c'est-à-dire les listes qui ont cette forme. Alors un autre nom qu'on peut donner au lasso ou aux grandes ours, c'est des listes rationnelles. Et c'est quoi une liste rationnelle? C'est une suite qui peut être finie ou infinie, mais qui a la propriété de n'avoir qu'un nombre fini de sous-listes. Alors c'est quoi une sous-liste? Faites attention, c'est différent de la notion de sous-suite que vous connaissez en topologie ou en analyse. Une sous-liste, vous n'avez le droit que de supprimer les premiers éléments de la liste. Vous prenez une liste, finie ou infinie, et vous avez le droit de supprimer les trois premiers éléments, les quatre premiers éléments, vous supprimez ce que vous voulez, mais uniquement un segment initial. Si vous prenez la liste qui se trouve là, 4, 5, 4, 5, 4, 5, elle a combien de sous-listes distinctes? Deux, qui sont, voilà, elle-même, 4, 5, 4, 5, 4, 5, et une autre, qui est 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, qui est obtenue en supprimant un élément. D'accord? Donc, démonstration, si vous supprimez un nombre pair d'éléments, vous retombez sur la liste elle-même. Si vous supprimez un nombre impair d'éléments, vous retombez sur la liste qui commence par 5. Il y a combien de cellules? Deux. Deux sous-listes, deux cellules. Revenons ici, il y a combien de sous-listes distinctes? 7. Il y a la liste elle-même qui consiste à faire ça, pop. Il y a la liste qui part de là et qui fait ça. Une troisième liste part de là et fait ça. Une quatrième liste part de là et fait ça. Elle est périodique. Celle qui commence là est périodique aussi. Celle qui commence là est périodique aussi. Celle qui commence là est périodique aussi. Et celle qui commence là, on l'a déjà vu. Donc, en gros, vous avez le même nombre de... Enfin, pas en gros, c'est exactement... Vous avez le même nombre de sous-listes que vous avez de cellules dans la représentation minimale de la liste. Pourquoi dans la représentation minimale? Cette liste, je pourrais la représenter comment autrement? Voilà, donc je peux faire 4, 5 que je vais voir une seule fois, et puis 4, 5, et je repointe sur le deuxième 4. Donc j'ai aussi une possibilité de la représenter avec 4 cellules, mais la représentation minimale, eh bien, c'est le nombre de sous-listes distinctes. Bien, un petit théorème que vous pouvez vous amuser à démontrer. Les listes qui sont rationnelles, ce sont ou bien les listes finies, donc forcément les listes finies ont un nombre fini de sous-listes distinctes, ou les listes qui sont périodiques, mais seulement périodiques à partir d'un certain rang, avant d'avoir la période, comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez avoir un motif qui va ne se représenter qu'une fois. Supposez que je prenne une liste qui est rationnelle, c'est-à-dire qui ou bien est finie, ou bien est périodique à partir d'un certain rang. Je fais le produit cartésien, enfin, je forme un couple entre cette liste et un entier. C'est-à-dire, je mets un entier au début de la liste. Est-ce que j'obtiens une liste qui est rationnelle? Oui. Pourquoi? Ben parce que je vais avoir un motif qui va peut-être contenir mon entier. Et puis ensuite, ben je vais avoir la même. Imaginez que je rajoute un entier en tête ici avant L. Ben je vais avoir un motif qui contient L et mon entier. Et puis après, je vais avoir un autre motif M qui va se répéter. Si je rajoute la liste nulle, j'obtiens encore un ensemble de listes rationnelles. Et à l'inverse, si je prends une liste rationnelle, eh bien, ou bien elle est vide, ou bien elle n'est pas vide. Et si elle n'est pas vide et que j'enlève le premier élément, j'obtiens encore une liste rationnelle. Et donc, l'ensemble des listes rationnelles est une autre solution de cette équation. Est-ce que l'ensemble des listes périodiques est une solution de cette équation? Ben non. Voilà, exactement. Si vous prenez cette liste qui s'avère être périodique, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, si j'ajoute un 3 devant, ben je vais avoir 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5. Ça, c'est une liste qui est rationnelle, mais qui n'est pas périodique. Donc, l'ensemble des listes rationnelles est une solution de cette équation, mais vous voyez que ce n'est pas une solution complètement... Enfin, cette équation n'a pas énormément de solutions, en particulier, les listes périodiques ne sont pas une solution de cette équation. Donc, je vous avais dit, pour une fois, un petit peu de théorie éclaire, dans de nombreux cas, la théorie éclaire la pratique, mais contrairement au cas des fonctions récursives qu'on arrivait à peu près à expliquer sans point fixe et sans équation, ici, on s'aperçoit que l'intuition qu'on avait au début, à savoir qu'on avait défini le plus petit point fixe de cette équation, est fausse. On a défini un autre point fixe de cette équation qui contient certes les listes finies, mais aussi les listes rationnelles infinies. Alors ici, il faut savoir quelles conventions on choisit. Et c'est à la fois un choix du langage et un choix du programmeur. Il y a des langages qui interdisent ces structures infinies. Il y a des langages dans lesquels il est impossible de construire une liste comme celle-ci. Un exemple de ce langage, c'est le fragment fonctionnel de Java. Donc, vous n'avez pas d'affectation, ni des variables, ni des champs d'une cellule. Vous perdez la possibilité de faire des affectations, mais vous gardez quand même la possibilité de construire des listes. Et pour ça, vous avez un constructeur binaire pour les listes. Donc, vous pouvez écrire new list de L et de nul. Pardon, new list de 5 et de nul, de manière à fabriquer cette cellule. Vous avez choisi de mettre 5 ici et nul là, mais une fois que vous l'avez fabriqué et alloué avec le constructeur binaire, vous n'avez plus de moyen de changer ce qui se trouve là et ce qui se trouve là. Donc vous voyez que dans ce langage, vous avez la possibilité de définir la liste de longueur 2, 4, 5, puisqu'il vous suffit de faire L égale new list de 4 et new list de 5 et de nul. En revanche, vous n'avez pas la possibilité de définir cette liste rationnelle, parce que si vous écrivez liste L égale new list de 4 et de new list de 5 et de L, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cette affectation est rejetée par... Et déjà, pourquoi est-ce qu'elle est rejetée en Java en général? Voilà, parce que L, ici, n'est pas utilisé dans sa portée. La portée de L, c'est tout ce qui va suivre cette déclaration. OK? Donc, vous n'avez pas la possibilité d'utiliser cette construction, et du coup, vous n'avez pas la possibilité, dans le fragment fonctionnel de Java, sans faire d'affectation, de créer une liste infinie. Regardez ici, au moment où on avait créé la liste infinie, le point essentiel, c'était ici l'affectation du champ tail avec la valeur L qui existait avant. Et sans cette affectation, on n'a pas de moyen de fabriquer une liste infinie. Alors, même dans les langages où vous avez la possibilité de fabriquer des listes infinies, il y a un certain nombre de programmeurs qui s'interdisent de le faire. Quand ils ont envie de faire ça, bah, ils font autre chose. Et c'est où il y a un certain nombre de conventions. Par exemple, il y a des conventions qui sont propres à l'informatique que vous allez mettre dans une centrale nucléaire, dans un avion, qui peuvent être différentes en fonction du domaine dans lequel votre programme est utilisé. Et donc, plus le domaine est sensible en termes de sécurité, moins on va vous laisser faire des choses un peu olé olé comme ça, qui peuvent mettre en danger la sûreté du système. Donc, c'est important de savoir quelle convention on choisit, parce que si vous prenez cette fonction, c'est la fonction somme qui vous prend en argument une liste d'entiers et qui calcule la somme des éléments de cette liste. Eh bien, je l'ai programmé ici de manière récursive. Je dis si la liste est vide, ben la somme c'est 0, c'est l'élément neutre de l'addition. Puis si la liste n'est pas vide, eh bien, je vais regarder la tête de la liste, je vais sommer tous les éléments de la queue de la liste et je vais ajouter les deux entiers que j'obtiens comme ça. Cette fonction, est-ce qu'elle est correcte ou pas? Est-ce qu'elle termine ou non? Donc ça, c'est un genre de question qu'on peut poser au concours d'entrée à l'école si on veut planter la moitié des élèves, des candidats. Cette fonction, tout le monde a l'impression qu'elle termine. Et pourquoi est-ce qu'elle termine? Bah parce qu'on rappelle récursivement la fonction somme sur une liste qui est plus courte. Donc elle est plus courte à condition qu'elle soit finie. Quand vous enlevez un élément à une liste finie, vous obtenez une liste plus courte. Quand vous enlevez un élément à une liste infinie, ben vous obtenez une liste qui a exactement la même longueur. Donc si vous autorisez les listes rationnelles, comme la liste qu'on avait là, 4, 5, 4, 5, 4, 5, ici vous allez faire 4 plus 5 plus 4 plus 5 plus 4 plus 5 plus 4 plus 5, et quand vous aurez fini, eh bien vous donnerez le résultat. Donc ici la fonction va boucler sur une liste rationnelle en général, et elle va terminer si la liste est finie. Donc même la question de savoir si une fonction termine ou non dépend de la convention qu'on a choisie, dépend du point fixe qu'on a choisi comme solution de l'équation. Bien, avant de passer à Camel et à C, et de voir que les choses sont assez différentes, essentiellement parce qu'on n'a pas de valeur nulle, pour des raisons différentes en Camel et en C, on va dire un mot des types disjonctifs. Donc, vendredi et aujourd'hui, on a parlé d'enregistrement, récursif ou pas, partagé ou pas, mais essentiellement, si on met de côté ces questions de récursivité et ces questions de partage, les enregistrements sont des nuplés. Donc ce sont des produits cartésiens. Un type enregistrement, c'est le produit cartésien du type de ces champs. Qu'est-ce que c'est qu'un type disjonctif? Eh bien, c'est un type plus général, qui n'est pas juste le produit cartésien de type qu'on connaissait avant, mais qui est une union disjointe de produits cartésiens de type qu'on connaissait avant. Alors, exemple, le type des listes, on a vu que c'était pas juste le produit cartésien des entiers et des listes, mais c'était l'union disjointe de cet ensemble et du singleton qui contient la liste vide. On va voir dans quelques semaines, rapidement en fait, que de la même manière, le type des arbres, eh bien, il se définit. En gros, un arbre, c'est le produit cartésien. Le type des arbres, c'est le produit cartésien de deux arbres. Mais il faut rajouter le cas de l'arbre vide. Et donc, on a un autre exemple de type disjonctif. Ici, on a un produit cartésien. Ici, on a un autre produit cartésien. Un singleton, c'est un produit cartésien d'une famille vide. Bon, peu importe. Et on veut faire l'union disjointe. Un cas plus intéressant. Si vous voulez manipuler des expressions algébriques, et c'est ce que vous ferez dans le TP, non pas si vous avez commencé le suivant, des expressions relativement simples qui sont formées avec plus multiplié des constantes et des variables. Donc x plus 4, x plus y, x fois y plus 4, x fois 4 plus y, x fois 4 plus x par une chaîne de caractères. Et puis vous avez deux cas, qui sont le cas où votre expression algébrique, c'est x fois 4 plus 28, et donc c'est la somme de deux expressions algébriques, ou vous avez le cas où c'est x fois 4, et donc c'est le produit de deux expressions algébriques. Et dans chacun de ces deux cas, quand c'est la somme de deux expressions algébriques, il faut donner une expression algébrique et une autre expression algébrique. Et quand c'est le produit, il faut donner une expression algébrique et une autre expression algébrique. Donc voici un exemple où on a une vraie union disjointe, pas juste une union disjointe avec un singleton, où on a ici un type les entiers, un type les chaînes de caractères, un type qui est un produit cartésien du type avec lui-même, et à nouveau le produit cartésien du type avec lui-même. Et attention, cette union est disjointe. Un objet qui est arrivé ici parce qu'il était dans cet ensemble ou dans cet ensemble-là sont considérés comme différents. Dans un cas, c'est la somme, dans l'autre cas, c'est le produit. Bien, donc, il y a quatre manières dans les langages de programmation de parler de type disjonctif. Et encore une fois, les langages de programmation diffèrent puisque les quatre solutions sont rarement offertes, toutes. Et parmi ces quatre-là, divers langages de programmation offrent diverses solutions. Alors, première solution, c'est le cas qu'on a déjà vu, c'est le fait d'utiliser la valeur nulle. Quand vous avez la chance d'avoir un type qui est presque un produit cartésien, mais qui est juste une union disjointe avec un singleton, eh bien, vous identifiez la valeur de ce singleton avec la valeur nulle, l'élément de ce singleton avec la valeur nulle, et il vous suffit de définir le type comme un produit cartésien, et Java, en l'occurrence, qui a une valeur nulle, ben, va en fait vous le définir comme ça. Donc ça marche très bien pour les listes, ça marche très bien pour les arbres. Regardez, les arbres, c'est juste ce produit cartésien-là, et on fait une union disjointe avec un singleton. Mais bien sûr, ça ne marche pas pour ce type-là, qui est une union disjointe beaucoup plus complexe. Ici, on n'a pas juste un produit cartésien et un singleton, on a beaucoup plus que ça. Alors, deuxième solution, c'est d'utiliser un champ sélecteur. Et l'exemple qu'on va prendre, c'est le type des expressions. Donc voici des expressions, 3x, 3 plus x, y fois 3 plus x, etc. Et voici la définition du type qui était sur le transparent précédent, c'est l'union disjointe, des entiers, des chaînes de caractères, de ce produit cartésien, de ce produit cartésien. Une manière de faire, c'est de définir ce type des expressions comme un enregistrement dont le premier champ va vous indiquer la nature de la valeur. Donc le premier champ, on va dire, c'est un entier. Et on va mettre 0 dans ce champ si jamais on a une constante, comme ici. On va mettre 1 si jamais on a une variable, comme là. On va mettre 2 si on a une somme, comme ici. Et on va mettre 3 si on a un produit. Ça s'appelle le champ sélecteur. Et en regardant la valeur du champ sélecteur, vous savez dans quel cas de l'union disjointe vous êtes. Maintenant, ça suffit pas à connaître complètement l'expression. Si vous êtes dans le cas d'une constante, eh bien, il faut connaître la valeur de cette constante. Eh bien, vous allez ajouter un champ valeur que vous allez utiliser uniquement le jour où vous utilisez, où vous êtes dans le cas où le sélecteur vaut 0. Si vous avez une variable, vous devez donner une chaîne de caractères. Eh bien, vous allez rajouter un champ chaîne de caractères que vous allez utiliser uniquement ce jour-là. Si vous êtes dans le cas d'une somme ou d'un produit, vous avez besoin de deux champs qui sont eux-mêmes des expressions et vous allez les utiliser uniquement le jour où vous êtes dans le cas d'une somme ou dans le cas d'un produit. Donc ça vous amène à définir un type comme celui-ci, classe expression. Vous avez d'abord un champ sélecteur qui est un entier, puis vous avez un champ valeur qui est un entier, un champ variable qui est une chaîne de caractères, et deux champs, argument 1 et argument 2, qui sont eux-mêmes des expressions. Attention, ce type-là est beaucoup plus vaste que le type qui se trouve là, que le type des expressions. Donnez-moi un exemple de valeur qui se trouve ici, mais qui n'est pas dans le type des expressions. Voilà, première solution, vous mettez 24 dans le champ sélecteur. Donc, ça, on sait pas ce que c'est, mais même si on met 0 dans le champ sélecteur. Dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, dans le champ val, on va mettre la valeur de la constante, 3. Mais qu'est-ce qu'on va mettre dans les autres champs? Eh bien, on va mettre des valeurs par défaut. Et ça, c'est la représentation de 3. Si vous mettez autre chose que des valeurs par défaut, eh bien, vous obtenez une espèce d'objet un peu mixte qui a à la fois une valeur, un nom, et dont le nom est sans doute superflu si vous avez mis ici que c'était une constante. Bien, alors, un exercice facile à faire, c'est quand vous avez des expressions comme ça, de les évaluer, de donner leur valeur. Alors bien sûr, il faut indiquer la valeur des variables, ça vous le faites par une liste, et ensuite vous êtes capable de dire que l'expression x plus 3 vaut 7, le jour où x vaut 4. Et puis, si vous pouvez faire des exercices plus rigolos, qui sont de dériver une telle expression par rapport à une variable, et surtout de simplifier l'expression que vous avez obtenue. Parce que quand vous dérivez une expression, vous avez beaucoup de 0 fois, de plus 0 et de 1 fois, et donc il faut les supprimer si vous voulez avoir quelque chose de lisible. Bien, ça c'était un exercice. Ce qui est important ici, c'est que pour que ce système marche, on a besoin de pouvoir mettre des valeurs par défaut dans les champs qu'on n'utilise pas. Et ça, ce n'est possible que quand tous les types contiennent une valeur par défaut. Est-ce que c'est le cas ici en Java? Est-ce que j'ai une valeur par défaut de type string? Oui, la chaîne de caractères vide. Guillemets, guillemets. Est-ce que j'ai une valeur par défaut de type exp? Oui, quoi? Nul. Donc c'est parce que j'ai une valeur nulle en Java que ce système marche et que j'ai toujours une valeur par défaut. Bien, donc on a vu essentiellement deux manières de représenter les types disjonctifs en Java. Le jour où on a juste une disjonction avec un singleton, eh bien on utilise la valeur nulle. Et le jour où c'est pas le cas, on met un champ sélecteur. Alors on va voir plus tard, quand on fera les objets, une autre manière de représenter les types disjonctifs en Java. Mais comme on n'a pas encore suffisamment de notions, on va remettre ça à plus tard. Pour terminer, quelles sont les différences en camel et en C? Commençons par camel. En camel, il est possible de définir un type enregistrement qui est récursif. Par exemple, vous pouvez définir le type des listes comme ceci, avec le champ head qui est le type int. Rappelez-vous, en camel, on met le type après, avec deux points et pas avant comme en Java, mais ça c'est une différence superficielle. Et on a un champ tail qui est lui-même de type list, ce qui fait que l'enregistrement est récursif. Quels sont les éléments de ce type? Eh bien, en gros, il n'y en a pas. Parce que ce qu'on a vu tout à l'heure, quand il n'y a pas de valeur nulle, et je vous rappelle qu'en camel, il n'y a pas de valeur nulle, un objet d'un type enregistrement, c'est forcément un couple. Enfin, un énuplé, ici un couple. Et donc, l'équation que vous avez n'est pas list égale nulle union int croix list, mais c'est list égale int croix list. Et la plus petite solution de cet ensemble, c'est l'ensemble vide. L'ensemble vide est une solution de cet ensemble, et c'est forcément le plus petit. La plus petite solution. Donc, si vous pensez en termes de liste finie, il n'y en a pas. Et si vous pensez en termes de liste rationnelle, vous avez perdu les listes finies, vous n'avez que les listes infinies rationnelles. Bon, donc c'est pas terrible quand même, puisque vous pouvez parler de la suite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, mais vous pouvez pas parler de 1, 2, 3, 4, parce que vous ne savez pas vous arrêter. Vous n'avez pas nul qui dit j'arrête la liste, donc vous n'avez que des listes infinies rationnelles. Et ça, ça vient du fait qu'il n'y a pas de valeur nulle. Donc on s'est dit c'est pas terrible de faire ça en camel, donc une autre solution, ça serait de mettre un champ sélecteur, qui va nous indiquer ici, donc là, un booléen suffit comme champ sélecteur, si la liste est vide ou pas. Mais vous vous souvenez, avec un champ sélecteur, il faut avoir des valeurs par défaut. Et typiquement, ici, on n'en a pas dans le type list. La seule solution, ça serait d'utiliser un champ sélecteur, et ici, une liste infinie comme valeur par défaut. Donc ça serait extrêmement complexe pour parler de liste finie. Et donc ça explique qu'en camel, il y a une construction spéciale qui permet de définir des types disjonctifs. C'est la construction type qu'on avait déjà vue pour définir les types enregistrement, mais avec ici cette barre qui est la disjonction, qui est l'union disjointe, et on dit une liste, c'est ou bien la liste vide, qui ne s'appelle pas nulle, mais qui s'appelle nil, ou bien une liste construite avec un entier et une autre liste. Et donc là, vous voyez une nouvelle manière de faire des types disjonctifs, c'est d'utiliser une construction particulière qui existe dans le langage pour les types disjonctifs. Donc les trois des quatre méthodes qu'on a vues aujourd'hui, c'est nul, utiliser nul quand il y en a dans le langage, utiliser un champ sélecteur, mais ça demande aussi d'avoir nul dans le langage parce que ça demande d'avoir des valeurs par défaut, ou utiliser une construction primitive du langage. Alors, cette construction primitive du langage, elle a été rajoutée dans Camel, précisément parce qu'il n'y avait pas de valeur nulle, et donc là, c'était un choix. Les gens qui ont conçu Camel se sont réunis un jour et ils ont dit est-ce qu'on met une valeur nulle? Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin des types disjonctifs, ou est-ce qu'on met les types disjonctifs et dans ce cas-là, on n'a pas de valeur nulle? Et c'est ce choix qui a été fait. Alors, pour l'anecdote, en Java, il y a des gens qui ont demandé de rajouter une construction primitive pour les types disjonctifs. Et donc, l'équipe de Java, après quelques pressions, a fini par le faire. Et cette construction n'a jamais été utilisée pour la simple raison qu'en Java, vous avez d'autres manières de définir des types disjonctifs, avec un champ sélecteur ou avec des objets, comme on va le voir plus tard. Et donc, il y avait eu là trop de redondance. Les gens avaient pris l'habitude, les programmeurs Java, d'utiliser les objets pour faire des types disjonctifs ou un champ sélecteur. Et du coup, cette construction primitive a disparu de Java. Donc, il y a extrêmement peu de langages qui ont à la fois un champ, une valeur nulle, et une construction primitive pour les types disjonctifs, parce que là, il y a une telle redondance que finalement, les programmeurs n'utilisent que l'un ou que l'autre, et une fois que les programmeurs ont pris des habitudes, les développeurs du langage les suivent. Parfois. Bien, deux mots sur C. Alors, en C, plus que le fait qu'il n'y ait pas de valeur nulle, ce qui est important, c'est que la valeur d'une expression de type point n'est pas une référence, mais est soi-même un triplet. Et de la même manière, si je définissais, ici je vous ai dit, le mot-clé c'est struct, mais c'est la même chose que classe en Java, list, en disant il y a un champ head qui a un entier, et il y a un champ tail qui est lui-même de type list, bon, il y a une petite bizarrerie de C, il faut rappeler que list est une structure, bon, enfin peu importe, et bien dans ce cas-là, une valeur de ce type, ça ne serait pas un pointeur vers une boîte rouge, à deux cases, mais ça serait une boîte bleue à deux cases. Donc il y a un niveau d'indirection en moins en C, et donc du coup, une valeur de type list, ça serait un couple qui contient un entier, et un couple qui contient un entier, et un couple qui contient un entier, et un couple qui contient un entier, etc. Et même si vous voyez que j'ai réussi à faire tenir ça sur mon transparent en divisant la taille des caractères par deux à chaque fois, eh bien c'est impossible de construire un tel objet en C, et donc cette construction est rejetée par le compilateur. Elle ne fait pas partie de la syntaxe de C. En fait, ce qu'il faut faire en C, c'est exactement la même chose que ce qu'on fait en Java. Il faut que le deuxième champ, le second champ de la liste, le champ tail, soit non pas une liste, mais un pointeur vers une liste. Et autant ce qui est implicite en Java, si on marque liste tail, ça veut dire que le champ tail n'est pas une liste, mais un pointeur vers une liste, c'est-à-dire ce n'est pas lui-même une cellule, mais une indirection vers une cellule, il faut le rendre explicite en C, et c'est ce qu'on obtient en mettant ici le type, non pas liste, mais liste étoile, qui veut dire un pointeur vers une liste. Donc vous voyez ici que contrairement à Java, où le mécanisme des enregistrements et des références est un unique mécanisme, ici vous avez deux mécanismes, le mécanisme des structures, des enregistrements, et le mécanisme des références, qui est cette étoile, et on les utilise conjointement dans cette construction. Quand vous avez une valeur de type struct étoile, eh bien c'est ou bien un pointeur vers un enregistrement comme celui-ci, ou bien une valeur nouvelle, qu'on n'avait pas encore vue en C, qui s'appelle nul, mais tout en majuscule. Et donc c'est le même nul qu'on a en Java, mais alors qu'en Java il faisait partie du mécanisme des enregistrements, en C il fait partie du mécanisme des références qui n'a rien à voir avec les enregistrements. Bien, quand on veut créer une liste de 1000 éléments, sans avoir à déclarer 1000 variables pour ensuite récupérer la référence de la variable avec le et commercial, avec l'esperluette, eh bien, il y a une construction en C qui s'appelle malloc, qui permet d'allouer une cellule. Et donc, c'est là, depuis qu'on a malloc qu'on va voir des cellules rouges apparaître en C. Avant, il n'y avait que des boîtes bleues. Et il y a des boîtes rouges en C aussi, mais uniquement avec cette instruction malloc. Qu'est-ce que c'est que cette instruction malloc? C'est la même chose que new, mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec les enregistrements, c'est uniquement lié aux références. Si vous avez un type quelconque ici, que vous faites le type des références vers ce type, et que vous faites malloc, eh bien vous créez une boîte rouge qui est de ce type. Et donc voilà comment on crée la liste 3, 4 en C. Voilà, c'est terminé. Alors, c'est terminé pour la première partie, bien entendu. Je vais passer la parole à Anne Canto. Des exercices pour la semaine prochaine 5-4 et 5-5. Et la prochaine fois, on approfondira les algorithmes qu'on peut développer sur les listes.
Bonjour. C'est bon, ça marche, hein? Vous m'entendez là? Non. Ça fonctionne pas terrible. Bah. Oui, c'est bon. Non, ça va aller. Donc, comme l'a dit Gilles, en une demi-heure, j'ai évidemment pas la prétention de vous faire un cours complet de cryptographie. Vous avez un cours de troisième année pour ça, hein, pour ceux que ça intéresse, qui vont continuer à faire de l'informatique. Moi, ce que je vais faire en une demi-heure, c'est essayer de vous expliquer les grands principes qui régissent la construction d'un système cryptographique et de vous montrer un petit peu les problèmes mathématiques et informatiques qui sont cachés là-dessous. Donc le problème auquel je vais m'intéresser, qui n'est pas le seul problème qui intéresse les cryptographes, mais qui est en tout cas le plus ancien, c'est le problème de la protection de la confidentialité des données. Donc un problème très classique, celui que vous imaginez sans doute quand vous entendez parler de cryptographie, c'est le suivant. Vous avez deux protagonistes. En cryptographie, on trouve que A et B, c'est un petit peu triste. Donc en général, ces deux protagonistes, on les appelle Alice et Bob. Et Alice veut envoyer un message confidentiel à Bob, ce qui signifie bien sûr qu'elle ne souhaite pas que quelqu'un qui intercepte ce message puisse le lire et puisse en faire une certaine utilisation. Donc pour cela, pour protéger la confidentialité des données, on utilise ce qu'on appelle un algorithme de chiffrement. Donc qu'est-ce qui se passe? Le message que Alice veut envoyer à Bob, ce message-là que je note petit m, on appelle ça le message clair ou le texte clair en cryptographie, eh bien Alice va lui faire subir un certain traitement, elle va prendre son image par une fonction qu'on appelle une fonction de chiffrement. Elle va obtenir cette image qui s'appelle le texte chiffré. Et c'est ce texte chiffré qu'elle va envoyer à Bob. Bob, lui, va utiliser la fonction inverse, une fonction de déchiffrement, pour retrouver le message clair. Au passage, vous remarquez que je n'utilise pas les termes de crypter et décrypter. Pour une raison simple, c'est que le mot crypter est un mot qui n'existe pas dans la langue française, il n'existe que dans les journaux. On parle de décrypter, ça c'est un mot français, décrypter, mais décrypter en cryptographie, ça veut dire essayer de retrouver le message clair à partir du message chiffré, sans utiliser la fonction de déchiffrement. D'accord ? Donc en cryptographie, on parle vraiment de chiffrement et de déchiffrement. Donc, ce qu'on veut, bien sûr, la propriété que l'on souhaite avoir, c'est que Bob soit le seul à être capable de retrouver le message clair à partir du message chiffré. Et donc, bien sûr, cette fonction de déchiffrement ici, elle ne doit pouvoir être appliquée que par Bob. Donc ça, on fait ça depuis l'Antiquité, on a des fonctions, des procédés de chiffrement et de déchiffrement depuis très très longtemps. Mais en fait, dès la fin du 19e siècle, on s'est rendu compte que les techniques qu'on utilisait n'étaient pas très pratiques. En fait, ce qu'on utilisait très souvent, c'était ce qu'on appelait des livres de code, où pour chiffrer et surtout pour déchiffrer, eh bien, les soldats sur les champs de bataille, ils avaient un gros dictionnaire et puis ils cherchaient les correspondances dans leurs livres. Et puis en fait, assez vite, une stratégie militaire assez puissante a consisté à commencer par attaquer et à essayer de récupérer un livre de code de l'adversaire. Et une fois qu'on avait récupéré le dictionnaire de l'adversaire, eh bien, c'était terminé, on était capable de décrypter toutes les communications possibles. Et donc on a quand même compris ça à la fin du 19e siècle et on s'est rendu compte que c'était très très difficile de conserver tout le procédé de déchiffrement secret. Parce que c'est quelque chose qui est difficile à stocker, qu'on ne peut pas mémoriser, donc il faut écrire ça sur un livre, et ça, ça peut tomber très très vite dans les mains d'un adversaire. Et donc ça a été formalisé par un linguiste qui s'appelle Kerckhoffs à la fin du 19e siècle, qui a écrit un traité de la cryptographie pour l'armée française. Et ce qu'a expliqué Kerckhoffs, c'était qu'il était absolument illusoire de vouloir garder tout ce procédé de déchiffrement secret. Ce qu'il fallait faire, c'était que le procédé de déchiffrement soit public, connu de tous, mais qu'il soit paramétré par une quantité qui soit facile à mémoriser et facile à changer. Et cette quantité, c'est ce qu'on appelle une clé en cryptographie. Donc, en fait, dans toute la cryptographie moderne, depuis la fin du 19e siècle, on applique ce principe, qu'on appelle le principe de Kerckhoff, qui consiste à dire, cette fonction-là, elle est publique, et Bob, il a une clé secrète, connue a priori de lui seul, qui va lui servir à déchiffrer. J'insiste sur ce point-là parce que, même si c'est connu depuis la fin du 19e siècle, c'est quelque chose qu'on est souvent obligé de rappeler, notamment aux industriels, qui pensent que quand ils font un algorithme de cryptographie, plus il y a de choses secrètes, plus c'est sûr. C'était le cas, par exemple, de l'algorithme dans vos téléphones portables. L'algorithme du GSM, il était entièrement secret jusqu'au jour assez rapide où il s'est retrouvé entièrement sur le web et où il a été cassé assez vite. Donc, puisque cette fonction de déchiffrement est paramétrée par une quantité secrète, bien sûr, la fonction de chiffrement correspondant va être, elle aussi, paramétrée par une certaine quantité qu'on appelle la clé de chiffrement. Et évidemment, puisque pour que Bob puisse déchiffrer ce que lui envoie Alice, ce qu'on demande, c'est que la fonction de déchiffrement paramétrée par la clé de déchiffrement soit l'inverse de la fonction de chiffrement. Alors, qu'est-ce qu'on veut comme propriété pour garantir la sécurité des transmissions avec de telles fonctions? La personne qui a défini proprement ce qu'étaient les propriétés de sécurité qu'on voulait, je résiste pas à vous montrer sa photo, il s'appelle Claude Shannon, et c'est le père de la théorie des communications. À la fin des années 40, il a publié deux articles extrêmement importants dans lesquels il donne une théorie mathématique des communications, de toutes les transmissions, et notamment des systèmes cryptographiques. Donc son article fondamental sur la cryptographie date de 1949. Et donc la première chose que Shannon introduit dans son article, c'est de dire qu'est-ce qu'on voudrait idéalement. Idéalement, on voudrait un système de chiffrement parfait, c'est ce qu'on appelle la sécurité inconditionnelle. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la connaissance du texte chiffré ne fournit aucune information sur le texte clair. Aucune information au sens suivant, c'est le sens de ce qu'on appelle la théorie de l'information. Alice, quand elle veut envoyer un message à Bob, eh bien, il y a une certaine probabilité pour que le message qu'elle a envie d'envoyer, le message clair, soit égal à petit m. Ça, c'est la probabilité a priori qu'elle ait envie d'envoyer le message petit m. Eh bien, le système, il va être parfait si cette probabilité qu'Alice envoie petit m est inchangée quand on connaît la valeur du chiffré qu'elle a transmis. D'accord? Donc, le fait d'observer le chiffré sur la ligne, de l'intercepter, ne vous donne strictement aucune information sur la probabilité qu'Alice ait voulu envoyer le message petit m. Et en fait, c'est assez facile de démontrer, c'est le premier résultat de Shannon, que pour que cette propriété soit satisfaite, il faut que le nombre de clés de chiffrement soit au moins égal au nombre de messages clairs possibles à envoyer. Donc vous voyez que, avec des mots modernes, ça veut dire que la longueur de la clé soit supérieure ou égale à la longueur du message clair. Alors, est-ce qu'on peut imaginer un système comme ça, un système parfait? Oui, il y en a un qui existait depuis le début du XXe siècle et qui était utilisé dans les transmissions télégraphiques. C'était inventé par quelqu'un qui s'appelle Vernam, donc ça s'appelle souvent le système de Vernam. On appelle ça à plein de noms. En français, on appelle ça le masque jetable, le chiffrement à usage unique. Il y a plein de noms pour ça. Ben, ça consiste simplement, si vous écrivez en base 2, comme nos ordinateurs modernes, à écrire votre message clair comme une suite de n bits, et puis vous avez une clé qui fait la même longueur que le message clair, la voilà, et vous faites simplement l'addition modulo 2, bit à bit, du message et de la clé. D'accord? Vous faites m0 plus modulo 2, le premier bit de la clé, ça vous donne le premier bit du chiffré. Vous voyez que c'est assez simple. Ça a en plus une bonne propriété qui est que pour déchiffrer, on fait la même opération. Vous prenez le chiffré, vous additionnez bit à bit avec la clé et vous retrouvez le clair. Et ce système-là, bah, c'est assez facile de voir que à partir d'un clair donné, vous pouvez obtenir n'importe quel chiffré. Il suffit de bien choisir la clé. Et donc, on a effectivement cette propriété-là, à condition, bien sûr, que toutes les clés soient équiprobables. Alors, vous allez peut-être me dire, mais ça n'a pas un intérêt primordial, ça n'a pas l'air vraiment génial, un système dans lequel la clé est aussi grande que le message qu'on veut échanger. Alors en fait, si, ça a quand même un intérêt, parce qu'il faut penser que la clé, c'est quelque chose que vous pouvez transmettre à votre interlocuteur en amont, à un moment propice, quand vous le rencontrez, quand vous avez une façon sécurisée de transmettre une clé. Par contre, transmettre des messages chiffrés, ça, vous pouvez être obligé d'en transmettre à n'importe quel moment, dans des conditions qui ne sont pas forcément propices. Et c'est des systèmes qui sont encore utilisés de nos jours, hein, c'est les systèmes qui sont utilisés dans toutes les transmissions diplomatiques, ça. Simplement parce que les diplomates, ils ont une façon très simple de s'échanger des clés, même si ces clés, elles sont très longues, ça s'appelle la valise diplomatique. Et donc la valise diplomatique, eh bien, elle contient constamment des tas de suites chiffrantes, comme ça, des tas de clés qui servent aux communications sécurisées des diplomates. Alors bien sûr, hein, je redis, attention, ça marche bien si toutes les clés sont équiprobables. En particulier, ça veut dire qu'une même clé ne peut pas servir deux fois. Ça, ça a eu une incidence historique très importante, parce que, donc je vous dis, c'est utilisé dans les transmissions diplomatiques et depuis très longtemps, et en particulier, c'était les systèmes qui étaient utilisés pendant la guerre par les ambassades soviétiques sur le territoire américain. Donc il y avait des bateaux qui amenaient les clés, et puis partout, dans toutes les ambassades. Et les soviétiques se servaient de ça pour transmettre leur communication en URSS. Et puis, quand les États-Unis sont rentrés en guerre, il y a eu un blocus, et puis les bateaux ont eu du mal à arriver, et les ambassades soviétiques, hein, l'ambassade à Washington, s'est retrouvée à un moment en pénurie de clés. Ils avaient épuisé toutes les clés, et donc les opérateurs étaient très embêtés, ils savaient pas quoi faire. Et ils se sont dit, bon, bah, de toute façon, on n'a pas le choix, on n'a plus de clés. Et donc, on va reprendre des anciennes, et ils les ont utilisées à l'envers. Hein. Au lieu de commencer par le début, ils les ont pris à l'envers. Et puis, au bout d'un moment, à la fin de la guerre, ça s'est su qu'ils avaient fait ça avec leurs clés, qu'ils avaient réutilisé les mêmes clés à l'envers. Et les Américains qui avaient enregistré et stocké toutes les conversations téléphoniques, toutes les conversations télégraphiques qui sortaient des ambassades soviétiques sur leur territoire à l'époque, se sont dit, oh là là, on va essayer d'exploiter ça. Ils ont monté un énorme projet scientifique à l'époque, à la fin des années 40, début des années 50, pour essayer de décrypter les communications. Et ils ont réussi, notamment avec l'aide d'IBM qui a inventé le dérouleur de bandes, parce qu'ils avaient des kilomètres de bandes enregistrées pour pouvoir traiter ça. Et ils ont réussi à décrypter un certain nombre de messages, et c'est en particulier ces messages qui ont servi à accuser les époux Rosenberg d'avoir volé des secrets atomiques. Donc c'est des choses qui ont eu une importance, le fait d'être amené à réutiliser les mêmes clés, c'est des choses qui ont eu une importance historique considérable. Mais en pratique, comme en général, ni vous ni moi, nous sommes des diplomates, eh bien, quand vous voulez acheter quelque chose sur Internet, vous n'allez pas utiliser ça, parce que vous n'allez pas pouvoir échanger une clé aussi longue que le message à chiffrer. Et donc, en pratique, puisque ce principe de Shannon ne va pas être respecté, votre système ne sera pas parfait. Tous les systèmes que vous allez utiliser en pratique, c'est des systèmes pour lesquels la connaissance du message chiffré potentiellement vous donne de l'information sur le message clair qui a été envoyé. Donc comment on va mesurer la sécurité de ces systèmes? Eh bien, la mesure qu'on utilise, c'est une sécurité qu'on appelle calculatoire. Puisque ces systèmes ne sont pas parfaits, il est toujours possible, théoriquement, de les casser. Et donc ce qu'on va mesurer, c'est l'effort qu'il faut pour casser ces systèmes, et on veut que cet effort soit hors de portée d'un humain, d'une organisation humaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire casser? Ça peut vouloir dire plusieurs choses, plus ou moins graves. Ça peut vouloir dire, bien sûr, retrouver le message clair à partir du message chiffré. Mais plus grave, ça peut vouloir dire retrouver la clé de déchiffrement à partir de la connaissance de certains couples clairs chiffrés. Et c'est souvent ça ce qui se passe dans la vraie vie. Et comment on mesure l'effort nécessaire pour casser le système? Bien, on mesure le temps de calcul, la quantité de mémoire, et puis la quantité de données quand on a besoin de couples clairs chiffrés au préalable pour retrouver la clé. Donc comment on va faire un bon système? Eh bien là encore, Shannon en 49 nous donne deux pistes qui sont encore celles qu'on utilise à l'heure actuelle. La première, c'est de dire, eh bien on va regarder toutes les méthodes possibles à disposition de l'attaquant, celui qu'on appelle le cryptanalyste, et on va essayer de décrire toutes ces méthodes, de les englober dans une méthode générale, et on va essayer de construire un système qui résiste à cette méthode générale de résolution. Donc on va obtenir un système qui résiste à toutes les techniques connues pour le casser. Et puis la deuxième hypothèse, c'est de dire, eh bien on va essayer de construire notre système de telle sorte que le casser est équivalent à résoudre un certain problème dont on sait qu'il est difficile. Alors ça, c'est sans doute quelque chose que vous connaissez déjà. Un problème difficile, c'est par exemple celui-là. Voici ce nombre que je ne lirai pas. Ce nombre est le produit de deux nombres premiers, lesquels ? Voilà. Il y a beaucoup de gens qui travaillent depuis très longtemps sur ce problème-là, qui ont du mal à le résoudre, donc on se dit que quand même il doit être difficile. Et donc, en 1977, on a eu l'idée d'utiliser la difficulté de ce problème pour faire de la cryptographie, et le système cryptographique qui repose sur la difficulté de la factorisation, c'est le système qui s'appelle RSA, donc vous avez sans doute tous entendu parler, et c'est un système qui a l'avantage d'être asymétrique, on appelle ça aussi à clé publique, parce que la clé de chiffrement n'a pas besoin d'être secrète. J'en dirai pas plus sur ce type de système-là. Hein. On peut faire des systèmes cryptographiques qui reposent sur des problèmes différents, mais tous de théorie des nombres, hein. Des problèmes plus ou moins difficiles. Alors en fait, le RSA, c'est quelque chose d'assez sympathique. En plus, les profs de maths aiment bien, parce que ça permet de faire des jolies mathématiques. Mais en fait, en pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, pour nous, ça a l'air simple de dire « Ah bah oui, on utilise un problème qui est difficile, et donc casser la cryptographie, c'est équivalent à résoudre le problème difficile, bah ça va être difficile. » Alors en fait, quand on parle de problème difficile, il faut bien savoir de quoi on parle. Souvent, un mathématicien, quand il dit « un problème est difficile », ça veut dire qu'en général, il est difficile, ou mieux, mais ça c'est assez rare qu'on sache démontrer ça, en moyenne, il est difficile. Par contre, ça ne veut pas dire dans tous les cas il est difficile. Vous voyez bien que factoriser un nombre qui est le produit de deux nombres premiers, si un des facteurs c'est 2, c'est pas très difficile. Donc c'est pas difficile tout le temps, c'est difficile souvent. Et en cryptographie, ben, on n'a pas besoin que ça soit difficile. Souvent, ça nous suffit pas. Vous avez besoin que votre système il soit solide tout le temps, pas seulement souvent. Donc en fait, c'est un tout petit peu, c'est même beaucoup plus compliqué que ça, et s'appuyer uniquement sur des résultats de théorie de la complexité, c'est pas aussi simple. Et puis, la deuxième chose, c'est que les problèmes mathématiques, s'ils sont difficiles, c'est que souvent, ils manipulent des objets qui sont un peu compliqués. Vous voyez que là, les objets qu'on manipule, c'est des nombres qui sont grands. Et pour un ordinateur, manipuler des nombres qui sont grands, ça coûte cher. Et donc, c'est compliqué. Et par exemple, le RSA, dans sa forme standardisée, sur un processeur normal, eh bien, son débit, quand vous voulez chiffrer des messages, vous arrivez à chiffrer à peu près 1 mégaoctet par seconde. Mais pour déchiffrer, parce que c'est plus compliqué, vous déchiffrez 11 kilooctets, à peu près à 10-11 kilooctets par seconde. Et si vous comparez cette vitesse de 10 kilooctets par seconde à une vitesse de transmission, vous voyez que c'est ridicule. Donc c'est inadmissible dans une transmission classique de devoir utiliser le RSA qui va vous ralentir le débit considérablement. Donc dans la vraie vie, on va utiliser ces systèmes comme le RSA, mais uniquement pour se transmettre des données toutes petites, typiquement des clés. Et ce qu'on va utiliser pour se transmettre des messages dès qu'ils sont un tout petit peu longs, c'est des algorithmes qu'on appelle symétriques, dans lesquels la clé de chiffrement et la clé de déchiffrement vont être la même. Et donc les performances qu'on vise, hein, c'est à peu près du 100 mégaoctets par seconde, donc quelque chose qui est un facteur 1000, 10 000 fois plus vite que du RSA. Et bien sûr, les autres applications qu'on vise dans ces algorithmes, c'est de pouvoir implémenter ça par des circuits où il n'y a pas beaucoup de place et où vous devez ne pas consommer trop de courant. Par exemple, dans votre téléphone portable, vous n'allez pas chiffrer avec du RSA. Parce que là, vous êtes sûr qu'au bout de 3 minutes de communication, vous n'avez plus de batterie. Si vous voulez chiffrer avec du RSA. Et donc, si on veut faire un système comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, un point de départ assez simple, c'est de repartir de notre fameux chiffrement de Vernam, qui consistait à additionner bit à bit, donc modulo 2, le message clair au message chiffré, le message clair à la clé, et on remplace la clé, au lieu de dire la clé, donc ce qu'on va additionner, c'est la clé, comme on veut pas que la clé soit aussi longue que le message à chiffrer, eh bien on va dire cette suite-là qu'on ajoute au message clair, ce qu'on appelle la suite chiffrante, en fait elle va être produite par un générateur pseudo-aléatoire qui va être initialisé par la clé secrète, et à partir de cette clé secrète, qui va faire une taille raisonnable, hein, eh bien, ce générateur va produire une suite très très longue. Et ce qu'on va vouloir comme propriété, ben, c'est exactement ce qu'on va vouloir, par exemple, si on utilisait un procédé comme ça, un générateur pseudo-aléatoire, pour faire le tirage du loto. Donc vous imaginez, hein, y a des endroits, des pays où ça s'est fait, jusqu'à temps qu'il y ait des informaticiens qui gagnent 3 fois de suite au loto. Les machines à sous marchent comme ça aussi. vous avez un générateur et vous avez un attaquant qui observe le tirage du loto. Donc pendant des années, des gens, ils notent le tirage du loto et puis ils font des statistiques sur ça. Et puis qu'est-ce qu'on veut pas? Ben, on veut pas qu'ils soient capables de prédire le tirage suivant. Ici, c'est exactement la même chose. La propriété, c'est que l'on souhaite, c'est que quand on ne connaît pas la clé, on ne peut pas distinguer la suite qui est produite par ce générateur pseudo-aléatoire d'une suite complètement aléatoire en un temps de calcul qui soit inférieur à l'essai de toutes les clés. Puisque vous pouvez toujours essayer toutes les clés et puis comparer avec ce que vous avez obtenu. Alors d'abord, comment on fait pour dimensionner ça, puisqu'il y a toujours une solution qui consiste en cryptographie à essayer toutes les clés, à regarder ce qui se passe. Si vous avez une clé qui fait k bits, ça veut dire qu'il y a 2 puissance k clés possibles. Donc essayer toutes les clés, ça coûte en moyenne l'essai de 2 puissance k moins 1 clés. Et pour des systèmes qui vont vite, comme les systèmes dont on est en train de parler, on estime à un coût d'un milliard d'euros une machine qui est capable de passer en revue 2 puissance 70 clés par jour. Hein, on en construit des petites, on se dit que si on en met plein en parallèle, pour un milliard d'euros, on va savoir passer en revue à peu près 2 puissance 70 clés par jour. Ça veut dire qu'une machine comme ça, si vous la faites tourner pendant un siècle, elle va passer en revue à peu près 2 puissance 88 clés, 88, 89. Et puis, si vous la faites, comme on estime qu'il y a à peu près 2 puissance 42 jours qui se sont écoulés depuis la création de l'univers, si vous la faites tourner depuis la création de l'univers, vous allez examiner 2 puissance 112 clés. Et puis, on peut en mettre plein en parallèle. Hein. Donc, comme le nombre d'atomes dans l'univers est estimé à peu près 2 puissance 200 et quelques, si vous mettez une machine comme ça hein, sur chaque atome de l'univers, que vous la faites tourner depuis le début de la création de l'univers, vous allez passer en revue 2 puissance 378 clés. Donc, dans les standards actuels, hein, on a des clés de 128 bits, donc il y en a 2 puissance 128 à passer en revue, donc vous voyez, vous êtes quelque part au milieu, là. Il y en a certains standards qui utilisent des clés de 256 bits. Mais par contre, quand vous lisez dans les journaux que, attention, quand on utilise des clés de 512 ou 1024 bits, oulala, mais faut se méfier, faudrait prendre des clés encore plus grandes que 512 bits, parce que les Américains, les Chinois, les Martiens savent passer en revue toutes les clés, vous pouvez répondre assez vite aux journalistes que, effectivement, ces gens-là sont très très forts parce qu'ils ont sans doute à leur disposition un univers parallèle pour pouvoir mettre des ordinateurs. Donc typiquement, une clé d'un algorithme comme ça, c'est 128 bits. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cette clé de 128 bits? Vous allez vous en servir pour initialiser votre générateur. En général, on utilise aussi une valeur qui est typiquement le numéro de trame, puisqu'en général, dans les protocoles de communication, vous avez des trames qui sont numérotées. Donc vous initialisez votre générateur, et donc ce générateur, c'est un automate qui a un état fini, qui fait n bits, et vous utilisez la clé pour l'initialiser, donc vous trouvez l'état initial. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, de cet état initial, qui dépend de la clé, vous allez extraire un bit, le premier bit de la suite chiffrante que vous allez additionner au premier bit du message. Et donc, pour extraire ce bit, vous allez appliquer à votre état interne une fonction qui a un certain nombre de variables d'entrée, qui sort un bit, qui est une fonction qu'on appelle une fonction de filtrage. Donc ça, c'est le premier bit de la suite. Et puis, le deuxième, vous l'obtenez en appliquant une fonction de transition à l'état interne. Vous obtenez le deuxième état interne, vous filtrez, deuxième bit de suite chiffrante, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut bien choisir la façon d'initialiser, la façon de faire la transition, et puis le filtre. Alors, comment on fait pour bien choisir la fonction de transition? Vous voyez qu'une propriété est désagréable. Vous voyez déjà que l'état interne, il est fini, hein, puisque vous êtes dans un ordinateur ou sur un circuit électronique. Il fait n bits, ça veut dire qu'il y a 2 puissance n état interne possible. Et donc, quand vous avez appliqué votre fonction de transition 2 puissance n fois, vous êtes sûr que vous retombez sur un état que vous avez déjà trouvé. Si votre fonction, c'est pas une permutation, vous vous retrouvez quand vous tracez la suite des états internes avec une grande ours. Si c'est une permutation, vous avez un cycle. Mais en tout cas, on veut être sûr que la taille de ce cycle, la taille de la période qu'on va avoir, elle soit grande. Parce que si la suite que vous produisez, c'est 1, 0, 1, 0, 1, 0, ça va pas être terrible. Donc, première condition, la suite des états internes, des itérés de votre fonction phi, doit avoir une grande période, quel que soit l'état dont vous partez. Attention, si imaginez que ma fonction phi, ça soit une fonction linéaire, si je mets que des zéros au départ, j'applique une fonction linéaire, ça me donne toujours que des zéros. Donc vous avez bien un cycle, hein, parce que c'est une permutation, mais c'est un cycle qui tourne sur 0, 0, 0, ça va pas être super. Donc comment on fait pour être sûr que, quel que soit l'état de départ, on ait une période élevée? Il y a deux options, il y a deux écoles. La première école, c'est de dire je prends une fonction aléatoire, ou une permutation aléatoire, et on peut démontrer que si tout se passe bien, si elle est suffisamment aléatoire, eh bien la taille du cycle, la période, c'est quelque chose qui a le même ordre de grandeur que la racine carrée du nombre d'états possibles. Donc si vous avez 2 puissance n états possibles, ça va être en 2 puissance n sur 2. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre un état interne assez gros, un gros tableau, et puis votre fonction, ça va être un truc qui mélange le tableau, votre permutation, transition, et puis de temps en temps, vous allez sortir des éléments du tableau. Donc il y a des algorithmes qui marchent comme ça. Évidemment, on peut pas mettre ça dans un circuit parce qu'il y a un gros tableau, c'est assez désagréable. Et puis c'est aussi, ça prend du temps à initialiser, donc ça, c'est pas terrible non plus. Si vous voulez faire de la cryptographie pour votre téléphone, par exemple, vous n'allez pas pouvoir utiliser une fonction aléatoire comme ça, ça va coûter trop cher. Et donc, vous allez devoir choisir une fonction pour laquelle on a vraiment une garantie sur la période. Et donc, cette fonction, pour pouvoir démontrer quelque chose sur sa période, eh bien, vous allez devoir la choisir comme une fonction qui a une certaine structure mathématique. Et typiquement, une bonne façon de faire, c'est de choisir une fonction linéaire. Et donc ça, c'est ce que vous avez vu dans le TD et qu'on va continuer à voir demain, dans le TD de la semaine dernière. Vous prenez un registre à décalage à rétroaction linéaire. Ça, c'est une fonction qui se comporte linéairement. Vous avez une transition linéaire. Ou bien vous en mettez plusieurs en parallèle. Et donc là, vous pouvez dire que si, suivant les propriétés du polynôme de rétroaction, eh bien, on peut garantir que la période est maximale. Alors le problème, c'est que quand on fait ça, tout est linéaire. Évidemment, les choses linéaires, c'est un petit peu trop simple pour faire de la cryptographie. Pourquoi? Parce que vous pouvez mettre votre système en équation, ça vous pouvez toujours faire ça. Quelqu'un qui observe ce qui sort de votre générateur, il peut écrire l'équation que le premier bit qu'il observe, c'est le résultat de, c'est l'image de la fonction f appliquée au n bits de l'état initial. Et puis le deuxième bit qu'il observe, c'est l'image par la fonction f du résultat de la transition par phi de l'état initial, etc., etc. Donc vous pouvez écrire ça pour autant de bits que vous voulez quand vous en observez un certain nombre. Et puis ça, bah, ça vous donne un système algébrique d'équations booléennes. En n variables, c'est n variables, c'est booléen, c'est les n bits de l'état initial. Et son degré, bah, si phi c'est linéaire, le degré de ces équations, c'est le degré de la fonction de filtrage. Et donc on peut résoudre ce système, qui a un certain degré, et pour le résoudre, il y a une technique qui est assez bête, qui consiste à linéariser le système. Linéariser, ça veut simplement dire que chaque monôme, on l'assimile à une nouvelle variable, et comme ça vous obtenez un système linéaire qui a plein de variables. Le nombre de variables, c'est le nombre de monomes possibles, c'est de l'ordre de n puissance le degré. Et pour le résoudre, ben, on fait un pivot de Gauss et ça coûte du n puissance 3D. Donc si D est très grand, ça va mal se passer. Qu'à cela ne tienne, il suffit de choisir des fonctions de filtrage dont le degré est suffisamment grand. Mais on sait depuis 2003 que ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce que l'attaque précédente, qui était très simple, on peut la généraliser à cette situation-là. Vous pouvez considérer, pour la fonction de filtrage, pour une fonction de filtrage donnée, l'ensemble de ces fonctions qui l'annulent. C'est-à-dire, on regarde toutes les fonctions qui ont le même nombre de variables, qui sont telles que, en tout point, le produit de G par la fonction de filtrage vaut zéro. Il y en a au moins une dans cet ensemble, une fonction non nulle, qui est la fonction complémentaire de F. Là où F vaut zéro, vous prenez G égale 1, là où F vaut 1, vous prenez G égale 0, et effectivement, elle est dans cet ensemble-là. On peut démontrer assez facilement que cet ensemble-là, c'est un idéal. Ça s'appelle l'idéal annulateur de la fonction f. Et si vous choisissez une fonction g dans cet ensemble, eh bien, et que vous l'appliquez à l'état interne de votre générateur à l'instant t, bien sûr, par définition, on a que g de xt fois f de xt vaut 0. Et comme f de xt, par définition, eh bien, c'est exactement le tième bit qui sort de votre générateur, vous voyez que cette relation est toujours vraie pour toutes les valeurs de t. Et en particulier, si vous observez à l'instant t une sortie de votre générateur qui vaut 1, ben ça veut dire que c'est l'autre terme, le terme en bleu qui vaut 0. Donc ça vous donne une équation en les bits de l'état interne, cette équation-là. Et le degré de cette équation, c'est plus le degré de la fonction de filtrage, mais c'est le degré de cette fonction g. Et le degré de cette fonction g, ben, il peut être beaucoup plus petit que le degré de la fonction de filtrage. Et donc, il y a toute une branche de la cryptographie actuellement qui à la fois travaille sur l'amélioration des techniques algébriques pour résoudre ces systèmes-là, mais aussi sur la recherche de bonnes fonctions de filtrage qui sont telles que dans cet ensemble-là, on a des fonctions qui n'ont pas un degré trop petit. Et ça, c'est difficile. Et puis, la deuxième grande technique d'attaque sur ces systèmes, c'est celle qu'on traite dans le TD. Qu'est-ce que c'est? Ben, ça, c'est un truc qui est classique en cryptographie. Vous avez un système compliqué avec des fonctions pas linéaires. Vous essayez de tout approximer par des fonctions linéaires et vous essayez de casser ça. Donc ici, le seul truc, si votre fonction phi est linéaire, la seule chose non linéaire qui reste, la seule source de non-linéarité, c'est la fonction de filtrage. Donc vous cherchez à approximer cette fonction de filtrage par une fonction linéaire. Autrement dit, vous cherchez une fonction linéaire qui est telle que la probabilité sur x que f de x soit égal à l de x soit strictement supérieure à 1,5, hein, parce que f de x, ça vaut 0 ou 1. Et vous remplacez f par cette fonction linéaire-là. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire, cette probabilité? Ça veut simplement dire que ce qui sort de ces générateurs complètement linéaires dans lesquels vous avez remplacé f par l, c'est une suite que j'appelle sigma, ce qui sort, chaque bit de cette suite sigma, ça correspond au bit correspondant de la suite chiffrante, de votre sortie du vrai générateur, avec cette probabilité p. Donc en fait, tout se passe comme si cette suite sigma, qui est une suite en fait, qui est une suite engendrée par une relation de récurrence linéaire, hein, puisque tout ça est linéaire, cette suite récurrente linéaire sigma, c'est comme si elle était transmise à travers un canal de transmission qui fait des erreurs avec une certaine probabilité p, et ça vous donne la suite chiffrante. Donc quelqu'un qui observe la sortie de votre générateur pseudo-aléatoire, il connaît des bits de la suite chiffrante, et il veut essayer de retrouver l'état interne du générateur, donc il veut essayer de récupérer le début de cette suite sigma. Et en fait, ça c'est un problème qui est un problème très très classique en communication, c'est un problème de correction d'erreur. En fait, pour pallier les erreurs dans les communications, on fait toujours ça, on rajoute en général de façon linéaire des bits en plus, de la redondance linéaire, on transmet ça, et puis en utilisant cette redondance linéaire, on va réussir à décoder. Et bien là, on peut faire exactement la même chose dans ce contexte cryptographique, vous avez les bits de la suite chiffrante, vous allez décoder et vous allez retrouver les bits de l'état interne. Et donc pour que cette attaque se passe mal, que ça soit difficile, il va falloir choisir une fonction de filtrage qui soit le plus loin possible de toutes les fonctions de degré 1, pour lesquelles toutes ces approximations vont être mauvaises. Et ça, c'est un problème, ne serait-ce que le fait de savoir, pour un nombre de variables données, par exemple pour 10 variables, pour 9 plus exactement, à partir de 9, on ne sait pas dire quelle est la plus grande distance pour une fonction à 9 variables de l'ensemble des fonctions de degré 1. Et c'est des problèmes auxquels on s'attaque depuis les années 50 et qu'on ne sait toujours pas résoudre, et qui sont très compliqués. Donc en résumé, ce que je voulais essayer de vous expliquer, c'est que quand on fait un système de cryptographie, la première chose essentielle, c'est qu'il faut toujours penser à la fois aux performances et à la sécurité. Je dis toujours, des systèmes cryptographiques sûrs, j'en ai plein mon tiroir. Des systèmes cryptographiques qui soient sûrs et performants, qu'on puisse utiliser, là c'est beaucoup plus dur. Deuxième chose, c'est que même quand on n'utilise pas des problèmes difficiles de théorie des nombres, la factorisation, tout ça, le log discret, il y a quand même des problèmes mathématiques très difficiles derrière. C'est des problèmes de mathématiques discrètes, des problèmes d'algèbre, qui sont assez trapus. Et le troisième principe, qui est le cœur même de la cryptographie, c'est que souvent, en cryptographie, on veut garantir de la sécurité. Et donc, on veut pouvoir démontrer des choses. On veut pouvoir dire, la période, c'est au moins ça. Et donc, le problème, c'est que pour démontrer des choses, il faut qu'il y ait une structure mathématique. Si vous prenez n'importe quoi, ça va faire n'importe quoi, vous n'allez jamais rien pouvoir démontrer. Et donc, le fait de prendre utiliser des fonctions, des objets qui ont une structure mathématique, par exemple notre fonction phi linéaire, eh bien, ça introduit des faiblesses dans le système, et on est toujours en train de jouer à ça. Et pour vous convaincre que c'est pas très facile, il y a 5-6 ans, on s'est rendu compte qu'on n'avait aucun bon générateur pseudo-aléatoire qui existait. Tous les standards avaient été cassés. On a été obligé de lancer un concours international pour ça. On fonctionne comme ça en cryptographie, on fait des concours. Donc, vous voyez, en 2005, on a demandé aux gens, soumettez-nous toutes nos propositions, toutes vos bonnes propositions de générateurs pseudo-aléatoires. Il y en a 34 qui sont arrivées de tous les pays du monde. On a fait 4 conférences internationales pendant 3 ans. On s'est amusé à casser le système du voisin, etc. Et à la fin, eh bien, il y en a 8 qui ont été finalement recommandées, jugées comme étant les meilleures. Hein, la plupart avaient été cassées. Et d'ailleurs, depuis, il n'y en a plus que 7, parce qu'il y en a un qui a été cassé depuis. Et si ça vous amuse, on est en train de jouer à un autre jeu en ce moment, qui est le même genre. Vous avez peut-être entendu parler de fonction de hachage. Une fonction de hachage, c'est une fonction qui prend en entrée une chaîne de bits quelconque, de longueur quelconque, et qui renvoie un condensé qui est quelque chose de taille fixe, typiquement 512 bits. Et on ne veut pas qu'il soit possible de trouver 2 messages qui aient le même haché en un temps raisonnable. Et donc en ce moment, on a une compétition comme ça pour trouver un standard de fonction de hachage avec 64 candidats et on s'amuse à casser tout ça. Donc pour ceux que ça amuse, vous pouvez aller voir ça avec les résultats en 2012. Voilà, bon appétit.